Au cœur de cette exposition qui pourra être visible par le grand public dans les prochaines heures et pour 4 mois, collection en quelques chiffres, il y a 4 salles, 4 étages, pardon, 14 salles d'exposition pendant 4 mois, 158 œuvres exposées, dont 127 de la collection de Chouquin, avec notamment 22 Matisse, 29 Picasso, 12 Gauguin, 8 Cézanne, 8 Monet, etc. Et 31 œuvres des avant-gardes russes, prêtées pour la plupart par la galerie Tretiakov à Moscou, en provenance de la collection Kostakis à Thessalonique. 35, on voit, ont été nécessaires pour acheminer ces œuvres par camion ou par avion. Collection qui devait être inaugurée, on le rappelle, par François Hollande et Vladimir Poutine, puisque les toiles de la collection de Chouquin viennent de Moscou, le musée Pouchkine, ou de Saint-Pétersbourg, le musée de l'Ermitage. Des toiles qui, Anne Baldassari, ont été la propriété d'un État qui, pendant des décennies, était officiellement hostile à l'art moderne, l'art décadent.
Oui, c'est l'un des grands paradoxes de l'histoire de la collection de Chouquin. Elle est donnée par le Sergueï Chouquin en 1907 à la ville de Moscou. Elle devait rejoindre la galerie Tretiakov. Et ceci dit, c'était un musée in progress, puisque au moment où il la donne, elle est en partie non constituée. Il est à la moitié du chemin. Elle est nationalisée, donc elle passe d'un statut virtuellement municipal à un statut national en 1918, donc nationalisation par Lénine. Et elle sera divisée sur décret de Staline en 1948. Et donc les deux parts de cette collection se sont réunies pour la première fois depuis cette séparation historique.
On a découvert d'ailleurs sur le tard des toiles de Matisse qui étaient, entre autres, qui étaient absolument inconnues, puisque les soviétiques ont commencé à exposer les toiles après la mort de Staline, je crois, vers 1959.
Oui, oui.
Ces toiles sont ressorties, tout d'un coup ont été exposées au public.
Il faut attendre la période de dégel, effectivement, et la mort de Staline pour que ses œuvres apparaissent sur les cimaises des musées russes et progressivement, dans les années 70-90, commencent à être prêtées à l'international.
Et puis il y a eu l'épisode de la guerre, évidemment, l'invasion allemande, l'invasion nazie qui a conduit les soviétiques à protéger ces toiles, mais à les protéger dans des conditions très, très difficiles. Elles ont été envoyées en Sibérie.
Roulées dans des conditions très rapides, avec d'ailleurs l'ensemble des collections nationales russes. Et c'est ce qui a souvent conduit à une dégradation physique, puisque les conditions thermiques étaient absolument climatiques, étaient désastreuses.
À vos côtés, André Marc Deloc-Fourcault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le petit-fils de Sergueï Chouquin et il me semble que lors d'une exposition de Matisse au centre Pompidou il y a 20 ou 25 ans, vous aviez... vous, au nom de la famille, en tout cas, revendiquer la propriété d'une partie de ces toiles. Vous aviez tenté de faire saisir ces toiles et de les récupérer des griffes de l'État soviétique.
Oui, enfin, on a toujours fait de manière telle que les toiles ne soient jamais menacées, parce qu'il faut bien comprendre que, quelles que soient les conditions dans lesquelles la collection est rentrée dans la propriété du gouvernement russe, elle ne peut pas aujourd'hui être ailleurs. Aucune personne privée au monde, je ne sais même pas si M. Bernard Arnault aurait les moyens, je ne pense pas, de valoriser et de conserver une collection d'une telle valeur. Vous savez, le collectionneur est à l'avant-garde, d'ailleurs, c'était exactement Chouquin. Il se lève le matin, le collectionneur, et le conservateur du musée se lève le soir pour ce qui concerne les expositions, pour montrer les œuvres, parce qu'il y a cette période où les collectionneurs avancent et ensuite rentrent au musée. La collection Chouquin, sa place est dans les musées, et Chouquin voulait que ce soit dans les musées russes.
Mais cette parenthèse est refermée, vous considérez que... Mais ces toiles ont leur place.
On n'a jamais réclamé la propriété, le retour des toiles. Mon appartement d'ailleurs est beaucoup plus petit trop petit pour accueillir la danse ou la musique. Alors en revanche, et je pense qu'il y a un petit résultat, c'est qu'à l'époque où ma mère, c'était pas moi, donc a fait cette action au centre Pompidou très peu de temps avant, dans des conditions qui faisaient que les toiles n'auraient de toute façon pas pu être saisies, mais elle l'a fait parce que Chouquin était totalement oublié. Hein, je crois que en 1993, j'aurais eu du mal à intervenir sur ce plateau. Et je suis même pas sûr. Enfin, Madame Baldassari, avec son background, aura sans doute réussi à en parler parce que elle le connaissait bien. Mais ça n'aura pas été évident. Ça n'aura pas été évident de l'inviter sur ce sujet-là.
Parce que évidemment, la collection de Choukine, on le rappelait, a été dispersée. Voilà. Elle a été séparée, divisée en deux.
Alors c'est peut-être un peu violent, mais les tribunaux, du coup, les médias, ils aiment ça. Hein, bon, et du coup, incontestablement, le nom de Sergueï Chouchkine a commencé vraiment à revenir au-delà des conservateurs et de l'histoire de l'art pour arriver quand même à un résultat assez spectaculaire, je crois, après 25 ans de travail.
Anne Baldassari, cette division entre Moscou et Saint-Pétersbourg, elle résulte aussi de l'ancrage très moscovite de Chouchkine qui défiait avec sa collection évidemment les élites intellectuelles qui étaient plutôt à Saint-Pétersbourg. Il y a quelques années, la directrice du musée Pouchkine à Moscou a lancé l'idée de reconstituer un grand musée d'art moderne qui serait en Russie avec l'ensemble de la collection Chouchkine. Ça a été un tollé absolu. Les autorités se sont dressées face à elle. Hein.
En effet, le projet d'Irina Antonova était de réunir ce qui fut le premier musée d'art moderne au monde et qui s'appelait le musée de la nouvelle peinture occidentale en 1919, qui combinait les collections Chouchkine et Morozov. Et c'est un projet qu'elle a poursuivi tout au long de sa carrière professionnelle. Elle est aujourd'hui présidente du musée Pouchkine. Elle était néanmoins maintenue en fonction et elle sera tout à l'heure à la conférence de presse d'ailleurs. Si ça... Voilà, donc c'est un. Ce premier.
Vous avez réalisé son rêve en quelque sorte ici.
Mais j'espère,
à Paris.
J'espère qu'Irina est ravie. Alors on a un peu aussi outrepassé ce rêve puisque non seulement on a rassemblé ici les deux moitiés de la collection de Chouchkine, mais on l'a confrontée aux avant-gardes russes qui se sont nourries de cette collection.
Bien sûr, et c'est le parcours que vous avez construit, imaginé à Anne Baldassari qui se termine aussi au sommet de cet édifice.
Oui, qui nous renvoie d'ailleurs au bâtiment de Guéry avec un architecte de Malevitch et à l'œuvre in situ de Daniel Buren qui a été inaugurée à la Fondation Louis Vuitton en mai dernier et qui montre que cette filiation de Cézanne à Picasso, à Malevitch, à Guéry et Buren est la même histoire et nous ramène au présent de la création contemporaine, ce qui fait que cette exposition est ici dans son véritable lieu.
À vos côtés également avec nous, bonjour Alexandre Melnik.
Bonjour.
Vous êtes professeur de géopolitique à l'ICN Business School de Nancy, spécialiste de la Russie. Cette exposition, elle nous renvoie à quelque chose qu'on a oublié, qui est un peu méconnu, c'est la francophilie de la Russie d'il y a un siècle et cette espèce de porosité artistique entre la Russie et la France.
Tout à fait. Il faut toujours garder à l'esprit qu'au fil de son histoire qui s'éclaire, la Russie a toujours eu une vocation européenne. La Russie a toujours eu cette soif d'Europe. Et quand je dis soif d'Europe, je parle de la France. Je voudrais rappeler les propos de Kundera qui disait que la France et la Russie sont deux pôles de l'Europe qui attireront toujours, auront l'attirance mutuelle, éternelle, l'un sur l'autre. Et cette histoire de francophilie, de culture russe, attirance de la Russie pour la France ne date pas d'aujourd'hui. Et cette attirance est mutuelle. C'est-à-dire, la France a toujours été attirée par l'âme russe, par la sensibilité artistique qui s'exprimait toujours en Russie, en dehors des régimes, en dehors des clivages politiques. Et la Russie a toujours été attirée par la France grâce à l'esprit cartésien. Donc nous avons tous les ingrédients de cette relation culturelle qui transcende les époques et qui pourrait être aujourd'hui, dans cette situation d'aggravation des tensions géopolitiques, qui est absolument grave, la culture pourrait être ambassadeur de la paix.
Ah, oui.
C'est Frédéric Bigbédé qui s'exclame. Anne Baldassari, on est plutôt là sur l'idée de l'influence exercée par l'avant-garde française sur les artistes russes qui, grâce aux collectionneurs comme Chouchkine, vont découvrir la façon dont la peinture évolue, dont la peinture bouge au tournant du siècle avec Picasso, Matisse et d'autres.
Oui, bien sûr. En même temps, il est intéressant de savoir qu'un artiste comme Matisse fils choisi par Tchoukine parce qu'il est pour lui une sorte de prisme de l'Orient à travers notamment la dimension décorative de l'œuvre de Matisse, a été Matisse, Picasso et tous les artistes français bouleversés par le travail de Diaghilev. Diaghilev présente une grande exposition d'art russe en 1906, une autre en 1907 avec 750 numéros. Les premières icônes sont montrées à Paris et c'est une véritable révolution qui s'opère à Paris par rapport à la connaissance de l'art russe qui arrive d'un seul coup. Puis ensuite, Diaghilev arrivera avec les ballets russes et ce sera une encore plus grande révolution. Donc monsieur a absolument raison, on est dans un système en boucle où l'influence des uns sur les autres va conduire à cette révolution des avant-gardes.
Et vous avez eu aussi le souci de reconstituer le palais qui était celui de Tchoukine à Moscou, en tout cas
de l'évoquer
à travers, lui il avait concentré sa collection dans quelques pièces et on voit des photos grand format dans cette exposition de son palais, de sa salle à manger, de ses pièces, etc., qui étaient des entassements de tableaux. Hein. Les tableaux étaient, les toiles étaient les unes sur les autres.
Hein. Oui, alors c'est assez émouvant, ces grandes photographies en noir et blanc qui sont à l'échelle d'ailleurs de la fondation, puisque la hauteur des cimaises est à environ 5 mètres, ce qui était le cas au palais Trubetskoy. Et en fait, le palais Trubetskoy comptait trois grandes salles d'apparat et deux cabinets et environ 250 mètres carrés. On est ici dans un espace qui se déploie sur près de 3000 mètres carrés. Donc, on a un peu plus de moyens et d'espace pour présenter la collection Tchoukine. Mais lui-même, dans les premières photographies de 1910, accrochait ses œuvres de manière assez traditionnelle, une œuvre par panneau. Et puis, c'est l'accumulation de la collection, sa pression physique qui va faire qu'il va envahir et recouvrir la totalité des cimaises de son palais jusqu'au moment où son œuvre sera considérée comme achevée par Tchoukine en 1914. Il publie le catalogue en français. Il était francophone, il écrivait en français à Matisse et donc il publie son catalogue, nomme un conservateur très tard effectivement qui va être chargé d'étudier la collection et d'une certaine manière son œuvre est accomplie.
Matisse, découvrant la façon dont Tchoukine exposait ses tableaux chez lui dans son palais, a été déconcerté pour ne pas dire horrifié par le résultat.
On n'a pas témoignage direct mais il est vrai que quand il arrive en 1911, Matisse découvre un palais qui est complètement recouvert de tableaux et va discuter avec Tchoukine pour réaccrocher 21 œuvres de sa propre œuvre dans le Salon Rose qui sont évoquées ici. Cette grande salle évoque le Salon Rose.
Il faut évoquer aussi un aspect de Tchoukine, c'est qu'on disait qu'il va vers les avant-gardes, il découvre des artistes qui ne seront reconnus que bien plus tard par les critiques de leur époque, mais il choisit des œuvres contre son propre goût. Il a une phrase que j'ai notée quelque part et que je ne retrouve pas. Il écrit à Matisse « J'espère aimer un jour ses compositions » à propos de, je crois que c'est peut-être la danse et la musique, c'est ça ?
La danse et la musique, tout à fait. Et il espère, et il finira par les aimer. Il disait aussi de l'œuvre de Picasso eh bien, qu'il n'adhérait pas, mais qu'il savait que Picasso avait raison contre lui. Donc, je pense que c'est très intéressant de voir cet homme, qui est d'une culture académique, conventionnelle, bourgeoise. C'est la grande bourgeoisie moscovite de la fin du 19e. Et d'ailleurs, la première salle de l'exposition, l'une des salles d'introduction, nous place dans ce contexte. On est dans une sorte de période room, où on voit une sorte de tension de Tchoukine entre des œuvres symbolistes, romantiques, nabis, qui sont quand même très conventionnelles dans leur choix. Et on va le voir être tiré vers l'impressionnisme, vers Matisse, Picasso, Gauguin. Et c'est cette tension où cet homme va déplacer les limites psychologiques, émotionnelles de sa propre histoire, de sa propre personnalité, qui va l'amener sur la terra incognita d'un art en train de se faire. Oui. Et c'est ça qui est beau.
C'est une personnalité passionnante. C'est un véritable amoureux de l'art. On dit qu'il peut passer des heures à regarder des tableaux.
Des années, parfois.
Oui, des années.
Il a passé des années.
Mais en tout cas, des heures. C'est un contemplatif. Sergueï Tchoukine, merci de l'avoir évoqué. On marque une pause avant de trouver Frédéric Beigbeder, hein?
On ne va pas dans le bâtiment.
On n'a plus le temps, on n'a pas le temps de déambuler et je pense que c'était mieux d'évoquer ces toiles avec vous comme ça rapidement. Al-Baldassare, à tout de suite avec Frédéric Beigbeder.